8h22. Cette semaine, l'Université Simon Fraser organise une semaine de la justice réparatrice. Des ateliers, des événements sont organisés pour mettre en lumière ces programmes-là qui ont pour objectif d'instaurer un dialogue entre les victimes et les agresseurs, amorcer aussi une réconciliation à la différence du système judiciaire conventionnel. Comment se passent ces dialogues et comment cette justice réparatrice peut servir les victimes et les agresseurs? Pour nous en parler, je joins Lucie Pinchot, coordonnatrice au Centre de justice réparatrice de Québec. Madame Pinchot, bonjour.
Oui, bonjour.
Pour les gens qui connaissent pas bien ça, qu'est-ce que c'est la justice réparatrice? En quoi ça consiste?
Bien, le mot « réparer » le dit bien. Hein? Il s'agit de réparer les torts qui ont été causés à une victime. Mm-hmm. Donc, la victime, une victime d'acte criminel, va rencontrer un délinquant ou un ex-délinquant, par exemple, mm-hmm. ex-détenu, qui en face à face. Et puis là, il y a un dialogue, il y a un échange qui se fait, et puis il y a réparation.
Mm-hmm. Réparation, c'est un grand mot parce que des fois, on est victime de choses qui sont assez terribles dans la vie et qui laissent des traces. Donc, c'est pas un petit processus quand même.
Non, quand même pas, mais c'est un processus qui permet à la victime d'être entendue. Hein? C'est son droit à la reconnaissance. La reconnaissance, son droit d'être entendue et de se réapproprier ainsi la justice aussi.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Parce que quand on parle de justice aujourd'hui, le crime, c'est une atteinte contre l'État. Mais en réalité, le crime, c'est une atteinte contre la personne.
Oui. Qui fait appel en majorité, les victimes ou les agresseurs?
C'est les agresseurs, dans la mesure où les agresseurs sont en centre correctionnel ou en maison de transition. Alors, il y en a là-dedans là, qui en arrachent. Hein, et ils savent là, qu'ils ont commis un crime et puis ils se sentent vraiment mal. Ils ont besoin de faire amende honorable. Ils aimeraient parler à des victimes pour leur dire aussi comment ils se sentent par rapport à ça. Et l'agent de libération conditionnelle va lui suggérer une démarche de justice réparatrice.
Oui, oui, oui. Est-ce qu'on peut forcer un agresseur à participer?
Absolument pas. Jamais, jamais, en aucun cas. Il faut absolument que l'agresseur se dise responsable, se sente responsable, prenne responsabilité.
Mm-hmm.
En responsabilité, c'est répondre de son acte. Alors, c'est un prérequis absolu.
Oui, oui, oui. Évidemment, si ça fait partie d'une démarche de réhabilitation pour un agresseur, il faut aussi que la victime veuille bien participer à cette démarche-là.
Oui, la victime elle-même aussi, là, c'est une personne, par exemple, qu'on va connaître à travers nos connaissances. Sinon, ça peut être quelqu'un qui nous est référé par un centre mm-hmm. pour des victimes. Et puis, cette victime-là fait une démarche. Elle est en cheminement vers la guérison et la réconciliation, mais elle a besoin de réponses à ses questions. Et elle tourne en rond, par exemple, parce que son thérapeute, son psychologue ne répond pas nécessairement à ces questions-là.
Mm-hmm.
Alors, ça devient comme une solution ultime de dire, bon, bien, je vais rencontrer un agresseur qui a commis le même type de crime que celui que j'ai subi. Ah, c'est pas l'agresseur direct nécessairement, ça pourrait l'être,
oui.
Dans la mesure où c'est ce que la victime demanderait, mais c'est vraiment victim-oriented dans ce sens-là. Là.
Oui, oui, oui. Comment se passent ces rencontres-là entre victimes et agresseurs? Sur quoi porte le dialogue? Et d'abord, on commence par quoi?
C'est réellement basé sur le récit témoignage. Alors, la première personne qui parle, normalement, c'est la victime qui va raconter l'impact que le crime a eu sur sa vie. Tout ce qu'elle a subi, elle-même, son entourage, sa famille,
mm-hmm.
suite les conséquences de ce crime-là. Et donc, à partir de son vécu. Et puis là, c'est le cœur qui parle, hein. C'est pas la tête. On n'est pas dans l'analyse, c'est vraiment le cœur qui parle. Elle se raconte. Ensuite, il n'y a personne qui l'interrompt pendant ce temps-là. Tout le monde écoute. C'est sacré, c'est ce moment-là où c'est elle qui parle. Et par la suite, après... L'autre étape, ça va être l'agresseur qui, lui, va raconter comment il en est venu qu'à commettre ce crime-là, son crime ou les crimes qu'il a commis de par le passé. Il va parler de son enfance, son cheminement, lui, dans sa vie jusqu'à aujourd'hui. Alors, lui aussi fait le récit de comment lui en est venu qu'à commettre mm-hmm. des crimes et pourquoi il est là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il veut faire?
Mm-hmm. Ouais. La tendance actuelle, Madame Pinchot, c'est plutôt la fermeté avec les criminels, des peines plus sévères. Surtout, on l'a vu avec le gouvernement de Stephen Harper. Comment la justice réparatrice se situe par rapport à cette demande-là de la population d'un système judiciaire plus dissuasif? Est-ce qu'il y a une compatibilité entre les deux, une complémentarité?
Certainement que la justice réparatrice est un supplément à la justice pénale. C'est un besoin qu'on va ressentir de plus en plus dans la société. On a besoin de vérité de plus en plus. Et oui, effectivement, on est dans une société plus répressive, mais c'est très important qu'on mette de l'avant la justice réparatrice et qu'on fasse connaître ça de plus en plus parce que les gens, en général, ne connaissent pas ce que c'est. C'est très peu connu.
Ouais.
Et puis, dans cette mesure-là, c'est important de le faire connaître pour aussi démystifier l'image des agresseurs, l'image des criminels qu'on se fait, l'idée qu'on se fait des criminels, c'est souvent, il y a beaucoup de préjugés aussi à ce niveau-là.
Mm-hmm.
Et quand on fait une rencontre en justice réparatrice, on se rend compte que derrière la personne criminelle qui s'est responsabilisée, c'est essentiel pour lui de l'exprimer, qui s'est responsabilisé, qui fait une démarche en ce sens-là parce que il n'y a pas aucun agresseur qui va récidiver après avoir fait une telle démarche et prendre conscience de l'impact du crime sur des victimes. Hein?
Mm-hmm.
Donc, à ce niveau-là, c'est une forme de réinsertion sociale et ça enlève des coûts pour la société parce que ces gars-là vont pas récidiver et retourner en prison.
Oui, justement, ça, est-ce qu'on a des statistiques là-dessus sur le taux de récidive après? On sait que ça fonctionne?
Oui, on a des taux, on a des statistiques sur le site web du Service correctionnel du Canada.
Uh-huh.
On peut aller voir dans la section de la justice réparatrice. Et puis, c'est certain qu'à plus long terme, des fois, il peut y avoir un agresseur sur cinq qui va récidiver, par exemple, au bout de 10 ans,
oui.
15 ans. Alors, c'est très, très peu quand même.
Oui, oui, oui. Est-ce que ça a évolué, cette façon de faire? Est-ce que la justice réparatrice a évolué dans les dernières années?
Elle évolue dans le sens que ça fait son chemin. C'est vraiment une question de aussi rassurer les centres pour les victimes d'actes criminels. Parce que malheureusement, on a trop peur souvent. Trop souvent peur de revictimiser les victimes en les confrontant avec un agresseur.
Mm-hmm.
Mais c'est pas une confrontation, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. C'est vraiment un espace où le cœur peut parler et il y a une résolution de conflit dans la mesure où la victime va vraiment ressentir qu'elle a pu enfin dire ce qu'elle avait sur le cœur à quelqu'un qui a un rapport avec le monde de la criminalité. Et puis ça, c'est une forme de décharge émotionnelle libératrice qui va aider la victime à move on, tu sais, à pouvoir reprendre le pouvoir sur sa vie aussi.
Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin, Mme Pinchot.
Bien, je vous en prie, ça m'a fait plaisir.
Bonne journée.
Bonne journée.
Lucie Pinchot, coordonnatrice au Centre de justice réparatrice de Québec. Et je vous rappelle que cette semaine, l'Université Simon Fraser organise une semaine de la justice réparatrice, 8h30.